journal présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Couvre-feu imposé ce soir à Bassora, la deuxième ville d'Irak est toujours en ébullition. La crise sanitaire ne fait qu'accentuer ressentiment et colère à l'égard d'un État défaillant et à la merci des milices. Analyse et commentaires de notre invité dans un instant, Pierre-Jean Louisard, directeur de recherche au CNRS. Ambivalence et frontalité entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, les deux hôtes de Téhéran, Idlib dans le nord-ouest de la Syrie, peut s'attendre au pire et sans corridor pour les civils, s'inquiètent les Nations Unies. En Allemagne, le croc en jambe du patron du renseignement intérieur Angela Merkel, les grandes oreilles prétendent que les chasses à l'homme collectives n'auraient pas eu lieu à Chemnitz. La chancelière les avait condamnées sans tarder, correspondance de Ludovic Piétenu. Florence Parly, ministre des Armées, accuse rien que ça Moscou d'espionnage, une histoire de satellite militaire que nous racontera Stéphane Iglesis à la fin de cette édition. Il n'y aurait pas eu de chasse à l'homme collective à Chemnitz le 26 août dernier lors d'un rassemblement non autorisé de l'extrême droite allemande. Ces doutes sont articulés par Hans-Georg Maaßen, le patron du renseignement intérieur, qui met dans l'embarras Angela Merkel, elle qui avait condamné dès le lendemain ces expéditions punitives qui n'auraient pas existé. Depuis le début de la semaine, la politique d'accueil des réfugiés de la chancelière et qui plus est, vilipendée une fois de plus par son ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, Ludovic Piétenu, les prises de parole d'un haut responsable ne sont pas à prendre à la légère.
Oui, il y a de bonnes raisons de croire qu'il s'agit d'une fausse information. Quand c'est le patron des renseignements intérieurs allemands qui le dit, sa personne et sa qualité font autorité. Monsieur Maaßen, connu pour sa critique acharnée de la politique d'Angela Merkel à l'égard des réfugiés, donne ainsi raison au ministre président de CDU du Land de Saxe, où se trouve Chemnitz. Michael Kretschmer, ce jeune loup de la classe politique allemande et du parti de la chancelière, ne peut pas croire que ses électeurs se soient livrés à une telle manifestation de haine. Lui qui dans un an devra faire barrage au parti d'extrême droite AfD lors d'élections régionales, surveille son langage. En mettant en doute cette vidéo, le patron des renseignements donne également quitus au ministre de l'Intérieur, lui aussi très dur, on le sait, sur la question de l'accueil des réfugiés, le bavarois Horst Seehofer, allié CSU turbulent de la chancelière. Et c'est donc elle et son porte-parole qui, en parlant de chasse à l'homme xénophobe, se retrouvent a priori désavoués. Mais l'histoire n'est pas terminée, d'abord parce que l'enquête autour de cette vidéo continue, ensuite parce qu'il y a des plaintes déposées par plusieurs étrangers. Ensuite, parce qu'un journaliste local a décrit ces scènes bien plus largement que ce que l'on voit sur la vidéo, même si ce journaliste refuse d'employer cette expression de chasse à l'homme. Le porte-parole du procureur local coupe court ce soir au débat sémantique. Ce n'est pas un terme juridique. Les politiques peuvent le dire, ça les regarde. Notre travail à nous, c'est l'application de la loi.
Ludovic Piétenu, correspondant permanent de Radio France à Berlin. À Téhéran, le président turc Recep Tayyip Erdogan appelle à un cessez-le-feu à Idlib. Hors de question, lui rétorque son homologue russe, et Vladimir Poutine d'ajouter « Notre priorité commune et inconditionnelle, c'est de liquider définitivement le terrorisme en Syrie ». Fin de citation. La Turquie, la Russie et l'Iran se sont quittés sur un engagement dont la formulation veut tout et rien dire, une stabilisation par étapes à Idlib. Et qu'importe si, Eric Bigala, le Conseil de sécurité des Nations Unies et par ailleurs les humanités à pied d'œuvre dans ce nord-ouest syriens se débattent pour imposer des corridors pour les civils.
Eh bien, en clair, ça signifie qu'il n'y a pas, qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, de trêve, de cessation des hostilités, appelez ça comme vous voulez, sur les lignes de front d'Idlib. Ce sommet de Téhéran était à vrai dire assez inédit dans sa forme. Les délégations des trois présidents, turcs, russes et iraniens, ont siégé ensemble pendant une petite heure, leur discussion étant retransmise avec traduction instantanée par la télévision iranienne Presse TV. On y a vu notamment le président turc, Recep Tayyip Erdogan, suggérer par trois fois d'inclure un appel au cessez-le-feu dans la déclaration finale publiée à la fin du sommet. Et à chaque fois, un Vladimir Poutine lui répondre poliment, mais à la fin un peu fermement et sous le regard amusé d'Hassan Rouhani, qu'inclure un cessez-le-feu dans la déclaration finale, ce n'était pas possible, que ni la Turquie, ni la Russie, ni l'Iran ne représentaient les belligérants syriens et qu'ils n'étaient donc absolument pas en mesure de proclamer un cessez-le-feu. En toute logique, l'offensive sur Idlib devrait donc commencer incessamment. Hier encore, la presse du régime à Damas mentionnait la date du 10 septembre, c'est-à-dire de lundi, pour un un début d'attaque sur la province. Depuis ce matin d'ailleurs, les raids de l'aviation russe ont repris sur le sud d'Idlib, autour de Khan Cheikhoun, la même où un bombardement chimique avait tué plus de 80 personnes en avril de l'année dernière. Au Conseil de sécurité à l'ONU, la situation d'Idlib est également discutée. En ce moment même, le représentant spécial pour la Syrie, Stéphane de Mistura, a encore une fois plaidé pour la mise en place de corridors humanitaires qui permettraient aux civils d'évacuer l'enclave vers le sud ou vers l'est, c'est-à-dire vers le territoire tenu par le régime, vers le nord ou vers l'ouest, c'est-à-dire vers le terrain contrôlé par l'armée turque ou vers la Turquie elle-même, lorsque l'offensive sera lancée tous azimuts. Mais pour ce faire, il faudrait que les belligérants s'accordent et qu'il s'agisse des Turcs, des Russes ou des Iraniens, sans oublier le régime syrien, personne ne semble vouloir envisager de tels corridors humanitaires pour le moment.
Éric Biegala, aucun pourparler et encore et toujours des combats près de la ville portuaire yéménite de Hodeïda, des combats entre rebelles houthis et des forces gouvernementales soutenues par les Émirats arabes unis. Le sort de cette ville stratégique devait être discuté lors d'entrevues programmées par l'ONU à Genève, mais les échanges n'ont pas pu être engagés. Les représentants des houthis ont refusé de quitter le Yémen de peur de ne pas être autorisés à y revenir. Le consulat d'Iran à Bassora est en feu ce soir et rien ne semble éteindre la colère. Quatrième jour de heurts violents entre manifestants et forces de sécurité. 10 morts selon un dernier bilan. La deuxième ville d'Irak est à vif. Rente pétrolière confisquée par les multinationales. Milices surpuissantes. L'État central, toujours privé de gouvernement, est conspué par les habitants du delta du Sahel arabe. Pourquoi l'Iran est-elle visée? Pierre-Jean Luisard, spécialiste du Moyen-Orient, est l'invité de cette édition. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Comment interpréter la prise de parole du grand ayatollah Ali Sistani qui ce matin, lors du prêche du vendredi, a réclamé un changement politique à Bagdad? Est-ce de nature, Pierre-Jean Luisard, à faire pression sur ce que l'on appelle encore des partis aujourd'hui en Irak?
Alors c'est une façon pour le grand ayatollah Ali Sistani de se dédouaner d'une responsabilité qui s'avère aujourd'hui très lourde. Parce que tout le monde se souvient en Irak de la bénédiction qu'il avait apportée en 2005 à l'établissement d'un système politique confessionnel. Et on voit aujourd'hui que ce système fait faillite et prend l'eau de toutes parts, donc il cherche à sauver les meubles.
Alors qu'en est-il justement des équilibres, ou plutôt des déséquilibres politiques aujourd'hui en pleine structuration laborieuse?
Eh bien, le grand problème que l'Irak doit affronter aujourd'hui est justement un système politique qui vide de son sens toute action politique et tout acteur politique du contenu de son action, dans la mesure où l'on voit très bien que tout est ramené à l'appartenance communautaire, confessionnelle ou ethnique, et au-delà des intérêts personnels, et que les partis politiques sont happés par cet engrenage qui fait qu'aucun acteur qui est intégré dans ce système ne peut en réchapper. Et les Irakiens de la ville la plus riche d'Irak voient toujours aujourd'hui de l'eau saumâtre couler à leur robinet.
Alors que se passe-t-il justement dans ce sud irakien très riche en pétrole? Qu'en est-il justement de l'action de ces multinationales qui vont là-bas puiser ce qu'on appelle l'or noir, la malédiction en Irak?
Eh bien, la manne pétrolière sert essentiellement aujourd'hui non pas à financer des services publics ou à faire fonctionner un État qui s'avère aujourd'hui défaillant, mais à financer la corruption. Les dirigeants politiques utilisent cette manne pétrolière pour acheter des loyautés, des allégeances, que ce soit à travers des chefs de tribus ou des élus locaux. Et c'est la raison pour laquelle, plus d'un an après la victoire annoncée contre l'État islamique, les Irakiens ne voient toujours aucune tomber en matière de réforme et qu'ils constatent avec amertume qu'on leur avait menti, que la lutte contre l'État islamique n'était qu'un prétexte pour justifier un état de corruption tellement généralisé qu'on a même du mal à l'appeler corruption, puisque corruption c'est par rapport à un état de droit qui existe, et en Irak on voit que cet état est totalement absent.
En un dernier mot, Pierre-Jean Luisard, pas d'État, système milicien, des partis confessionnels, confessionnalisation du régime, et on oublie un acteur de poids, l'Iran. Qu'en est-il aujourd'hui?
Alors, l'Iran a joué un rôle essentiel avec les États-Unis dans la mise en place en 2003 et en 2005 d'un système qui aujourd'hui se retourne contre tous les acteurs, qu'ils soient régionaux ou intérieurs à l'Irak. Et on a vu que l'Iran, dans le bras de fer qui est aujourd'hui en cours contre l'administration Trump, a été contrainte de couper un certain nombre d'approvisionnements essentiels à la vie de la province méridionale de l'Irak, Bassora, pour cause d'un paiement. Les autorités irakiennes n'ont pas été en mesure de payer les Iraniens pour le pétrole et également pour une partie de l'électricité que l'Iran fournissait à la province méridionale. Et on voit aujourd'hui que tout le monde constate la catastrophe qu'un système politique qui, il faut le rappeler, a été rejeté par plus de 80% de la population irakienne qui s'est abstenue selon des chiffres quasi officiels aujourd'hui lors des dernières élections. Ce rejet est à la mesure donc d'une faillite généralisée d'un système qui ne peut pas être réformé, on le voit très bien.
Merci à vous Pierre-Jean Louisard d'avoir accepté notre invitation. Sa conception et son usage du pouvoir lui valent bien des sarcasmes. Les résultats économiques enregistrés par son administration pourraient lui offrir un répit, voire un airbag aux élections de mi-mandat. Donald Trump pourrait en effet se prévaloir d'un rebond significatif des créations d'emplois et des salaires en août dernier, à condition, Jean-Marc Chardon, de taire les piètres chiffres du commerce extérieur.
On peut voir dans la dernière brassée d'indicateurs économiques américains le meilleur et parfois le pire. Au premier regard, dans la vitrine économique, il y a les salaires. Voilà qu'ils prennent vraiment de la couleur, avec une augmentation annuelle qui frôle les 3%, ce qu'on n'avait pas vu depuis 2009. Ça a de quoi doper l'optimisme, cela fait des années qu'il stagnait, ou peu s'en faut. Un signe que les entreprises tournent quasiment à plein régime. 201 000 créations d'emplois, c'est-à-dire 25% de plus qu'en juillet, il y a de la demande. Mais en même temps, les entreprises éprouvent de plus en plus de mal à pourvoir certains postes, alors elles lâchent sur les salaires afin de retenir une main-d'œuvre qualifiée. Résultat donc encourageant, à ceci près que ce regain salarial, il épouse la courbe de l'inflation, laquelle a grimpé aussi de 2,9%. Pas d'amélioration effective sur le pouvoir d'achat au bout du compte. Ensuite, l'amélioration n'est pas uniforme. C'est dans les services et les transports que se dessinent les créations d'emplois, pas ou peu dans l'industrie, comme le voudrait Donald Trump. Et surtout, l'accélération de la croissance se fait sur le rebond de baisses d'impôts massives qui ont pour contrepartie une nouvelle aggravation du déficit budgétaire, ce qui est inquiétant quand arrivera l'heure du retournement. Plus perturbant encore, le fait que le déficit commercial américain lui continue de se creuser à 50 milliards de dollars, et singulièrement avec la Chine atteignant de nouveaux records. Ce qui signifie que la bataille du protectionnisme est loin d'être gagnée par Washington, et tout cela laisse peser des incertitudes sur la suite.
Et la bagarre des midterms serait encore loin d'être perdue, c'est le discours en tout cas qui domine au sein du Parti démocrate, le Parti démocrate qui pourra compter sur l'une de ses illustres figures. Barack Obama part en effet en croisade contre l'administration de Trump. À Washington, il invite l'électorat démocrate à se mobiliser pour le bien de l'honnêteté, de la décence et de la légalité, fin de citation, avant de rejoindre demain le sud de la Californie et la semaine prochaine l'Ohio, puis l'Illinois et la Pennsylvanie. Le parquet de Palerme vient de confirmer l'enquête pour séquestration de personnes contre le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui avait refusé pendant 10 jours à plus d'une centaine de réfugiés de débarquer en Italie. Un satellite s'est approché de lui de près, d'un peu trop près. Lui, c'est Athena Fidus, satellite militaire franco-italien, approché d'un peu trop près par un de ses semblables, bâton pavillon russe. Ces informations ont été livrées cet après-midi par la ministre des Armées. Et Florence Parly, tout simplement, d'accuser Moscou d'espionnage. Stéphanie Glézis.
Il y a environ un an, la France a dû faire face à une menace réelle. Un satellite russe, Louche Olympe, est venu se placer un peu trop près du satellite français Athena Fidus. C'est un satellite précieux pour la défense militaire française. Florence Parly, la ministre des Armées, n'hésite pas à parler de mini-guerre des étoiles.
Alors qu'Athena Fidus continuait sa rotation tranquillement au-dessus de la Terre, un satellite s'est approché de lui. De tellement près qu'on aurait vraiment pu croire qu'il tentait de capter nos communications. Cela s'appelle un acte d'espionnage. Et cette petite guerre des étoiles, elle a eu lieu il y a un an, à 36 000 km au-dessus de nos têtes. Et ce satellite aux grandes oreilles s'appelle Louche Olympe. C'est un satellite russe. Nous l'avons vu arriver. Nous avons pris les mesures qui s'imposaient. Nous le surveillons attentivement. Mais demain, qui dit qu'il ne reviendra pas auprès d'un de nos satellites ?
Pour répondre aux satellites espions, aux missiles balistiques en orbite ou aux radars laser de destruction de satellites, la ministre va proposer avant la fin de l'année au président de la République une panoplie complète d'équipements à même de contrer ce type de menace.
Deux figures de la dernière présidentielle ont toujours maille à partir avec la justice. La première rangée de la politique, François Fillon, a été de nouveau entendu par les juges aujourd'hui dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif dont aurait bénéficié sa femme Pénélope Fillon comme assistante parlementaire. La seconde, Marine Le Pen, a reçu dans la journée une nouvelle convocation des juges financiers sur l'affaire encore des emplois fictifs, mais cette fois de son parti, le Rassemblement National, au niveau du Parlement européen. Quelques mots seulement de la météo de demain samedi, temps ensoleillé sur la majeure partie du pays, après un passage nuageux dans la matinée. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau et la technique Jean-Frédérix.